on frappait les trois coups. Des ouvreuses s'entêtaient à rendre les vêtements chargés de pelisses et de paletots au milieu du monde qui rentrait. La claque applaudit le décor, une grotte du mont Etna, creusée dans une mine d'argent et dont les flancs avaient l'éclat des écus neufs. Au fond, la forge de Vulcain mettait un coucher d'astre. Diane, dès la seconde scène, s'entendait avec le dieu qui devait feindre un voyage pour laisser la place libre à Vénus et à Mars. Puis à peine Diane se trouvait-elle seule que Vénus arrivait. Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l'enveloppait. Ses épaules rondes, sa gorge d'amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances, ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grasse, tout son corps se devinait, se voyait sous le tissu léger d'une blancheur d'écume. C'était Vénus naissant des flots n'ayant pour voile que ses cheveux. Et lorsque Nana levait les bras, on apercevait au feu de la rampe les poils d'or de ses aisselles. Il n'y eut pas d'applaudissements. Personne ne riait plus. Les faces des hommes sérieuses se tendaient avec le nez aminci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, chargé d'une sourde menace. Tout d'un coup, dans la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l'inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'hommes. « Fichtre !» dit simplement Fauchery à la Falloise. Mars, cependant, accourait au rendez-vous avec son plumet et se trouvait entre les deux déesses. Il y avait là une scène que Prullière joua finement. Caressé par Diane qui voulait tenter sur lui un dernier effort avant de le livrer à Vulcain, cajolé par Vénus que la présence de sa rivale stimulait, il s'abandonnait à ses douceurs d'un air béat de coq en pâte. Puis un grand trio terminait la scène, et ce fut alors qu'une ouvreuse parut dans la loge de Lucy Stewart et jeta deux énormes bouquets de lilas blancs. On applaudit. Nana et Rose Mignon saluèrent, pendant que Prullière ramassait les bouquets. Une partie de l'orchestre se tourna en souriant vers la baignoire occupée par Steiner et Mignon. Le banquier, le sang au visage, avait de petits mouvements convulsifs du menton, comme s'il eût éprouvé un embarras dans la gorge. Ce qui suivit acheva d'empoigner la salle. Diane s'en était allée furieuse. Tout de suite, assise sur un banc de mousse, Vénus appela Mars auprès d'elle. Jamais encore on avait osé une scène de séduction plus chaude. Nana, les bras au cou de Prullière, l'attirait. Lorsque Fontan, se livrant à une mimique de fureur cocasse, exagérant le masque d'un époux outragé qui surprend sa femme en flagrant délit, parut dans le fond de la grotte. Il tenait le fameux filet aux mailles de fer. Un instant, il le balança, pareil à un pêcheur qui va jeter un coup d'épervier. Et par un truc ingénieux, Vénus et Mars furent pris au piège. Le filet les enveloppa, les immobilisa dans leur posture d'amant heureux. Un murmure grandit, comme un soupir qui se gonflait. Quelques mains battirent. Toutes les jumelles étaient fixées sur Vénus. Peu à peu, Nana avait pris possession du public et maintenant chaque homme la subissait. Le rut qui montait d'elle ainsi que d'une bête en folie s'était épandu toujours davantage, emplissant la salle. À cette heure, ses moindres mouvements soufflaient le désir. Elle retournait la chair d'un geste de son petit doigt. Des dos s'arrondissaient, vibrant comme si des archers invisibles se fussent promenés sur les muscles. Des nuques montraient des poils follets qui s'envolaient, sous des haleines fétides et errantes, venues on ne savait de quelle bouche de femme. Fauchery voyait devant lui l'échappée de collège que la passion soulevait de son fauteuil. Il eut la curiosité de regarder le comte de Vandœuvre, très pâle, les lèvres pincées, le gros Steiner, dont la face apoplectique crevait, La bordette, lorgnant d'un air étonné de Maquignon qui admire une jument parfaite. Daguenet, dont les oreilles saignaient et remuaient de jouissance. Puis un instinct lui fit jeter un coup d'œil en arrière et il resta étonné de ce qu'il aperçut dans la loge des Muffas. Derrière la comtesse, blanche et sérieuse, le comte se haussait, béant la face marbrée de taches rouges, tandis que près de lui, dans l'ombre, les yeux troubles du marquis de Choire étaient devenus deux yeux de chat phosphorescents, pailletés d'or. On suffoquait, les chevelures s'alourdissaient sur les têtes en sueur. Depuis 3 heures qu'on était là, les haleines avaient chauffé l'air d'une odeur humaine. Dans le flamboiement du gaz, les poussières en suspension s'épaississaient, immobiles au-dessous du lustre. La salle entière vacillait, glissait à un vertige, lasse et excitée, prise de ces désirs ensommeillés de minuit qui balbutient au fond des alcôves. Et Nana, en face de ce public pâmé, de ces 1500 personnes entassées, noyées dans l'affaissement et le détraquement nerveux d'une fin de spectacle, restait victorieuse avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout ce monde et n'en être pas entamée.